Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Cette libre antenne du samedi soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour partager des moments de vie. Venez prendre la parole au 3921. Venez prendre le temps de faire un pas de côté, de prendre le recul nécessaire pour essayer de vous détacher de ce qui vous fait souffrir. J'ai choisi pour vous ce soir un extrait d'un texte de Gilles Richard sur le détachement, justement. Apprendre le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Nous résistons parce que nous avons peur de perdre l'objet de notre attachement. Nous voulons que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme nous le voudrions, que notre vie se déroule comme nous l'avons planifié. Et à chaque fois que nous résistons, nous souffrons un peu plus. Apprivoisons le détachement. Apprendre à se détacher des résultats de nos efforts, du dénouement de nos attentes, de la réponse de l'autre à nos demandes, est un grand exercice de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur et d'acceptation. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner des autres pour ne pas vivre l'attachement. Ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive comme résultat de nos attentes, c'est plutôt rester ouvert à ce qui arrivera, peu importe les résultats. Alors sentez-vous libre ce soir de venir me parler de vous, de votre vie. Comme chaque soir du week-end sur Europe 1, Amandine et Hassan vous attendent au standard 3921. Pour participer à l'émission par SMS, je vous rappelle que vous faites le 739-21, commençant bien par le mot nuit. Et par mail, c'est l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, c'est Fabrice Fougeroux et le premier appel que je vais prendre tout à l'heure, c'est celui de Françoise qui semble vivre dans un schéma sentimental un peu répétitif. Elle va nous expliquer ça dans un tout petit instant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et c'est donc avec vous Françoise qu'on démarre cette émission. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Sabine, ben, merci. Déjà merci de me prendre à l'antenne et puis... Merci pour votre écoute et votre empathie, parce que je vous écoute très souvent.
Et, c'est gentil.
Je trouve que vous avez une écoute qui est importante pour les auditeurs.
C'est gentil de me le dire, ça me touche beaucoup. Merci Françoise. Quelle est votre histoire à vous alors ?
Alors justement, le texte que vous venez de lire en début d'antenne, là, ça fait résonance, parce que justement, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je n'arrive pas à avoir de l'attachement.
Oui.
Je pense que c'est ça mon problème. Et je n'en connais pas vraiment la cause. Je pense savoir pourquoi, mais c'est plutôt ma problématique. Je crée des histoires avec des personnes, mais ça ne dure jamais très longtemps.
De votre fait ou du sien ?
Plutôt du mien.
Plutôt du vôtre.
J'ai l'impression.
Oui, plus ou moins inconsciemment, vous recréez une sorte d'abandon systématique.
Oui. Alors que l'abandon, je l'ai connu plutôt au début de ma vie.
Et oui, c'est ça. Mais c'est là qu'on commence à se créer des schémas, en fait. Comment elle a commencé cette vie, alors ? Dans quelle ambiance avec vos parents ?
Dans une ambiance, on va dire, plutôt des parents immatures, dans le sens où ils ne se sont pas beaucoup occupés de nous,
oui.
De la fratrie, puisqu'on était trois enfants.
Mmh.
Et un père absent. Puisque sa priorité, ça a toujours été l'avion. Donc, il n'était jamais là. Et
l'avion, c'était son métier ?
Non, c'était sa passion.
Ah, sa passion, d'accord.
Ah oui, sa passion. C'était un des premiers Français, un pionnier de l'aviation, on va dire. Et donc, il passait tout son temps dans ce sport.
Ouais, et puis, les pilotes sont des passionnés.
Voilà. Et donc du coup, il n'était jamais là. Et puis ma maman, elle était tout le temps toute seule avec nous trois. Au bout d'un moment, elle a eu marre, je pense. Et mes parents ont divorcé, j'avais 11 ans.
Mmh.
11 ans. Et ma mère s'est mise en couple avec un homme qui n'était pas du tout quelqu'un d'intéressant et de bien. Mais elle s'occupait plus de son de son amant, entre guillemets, que de ses enfants.
Oui, mais elle avait peut-être un gros déficit de ce côté-là aussi, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, mais je ne la juge pas. Oui. C'était juste que, voilà, moi en l'occurrence, puisque mon frère a 4 ans de plus que moi, il était parti à l'armée, ma sœur s'est mise en couple très jeune, donc moi, je me suis retrouvée toute seule avec ces deux personnes.
Vous êtes la deuxième dans la fratrie, c'est ça ?
Non, la troisième.
La troisième, la petite dernière.
La dernière, voilà. Et donc un beau-père alcoolique et une mère alcoolique aussi.
Ah oui.
Donc voilà. Donc ça a été très difficile pour moi d'évoluer dans cette cellule familiale.
Dans une insécurité complète, quoi.
Oui.
Morale, en tout cas, oui.
Ouais. Ce qui fait que je suis partie très tôt de chez moi. Mmh. Je me suis assumée très très tôt. Et ça fait de moi une combattante.
Et c'est voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que de toutes nos épreuves, on en sort aussi grandi. Et que les gens qui grandissent dans des schémas comme le vôtre deviennent aussi des personnes qui ont tellement appris qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes dans tout, que du coup, ce sont ce que j'appelle des warriors, quoi. Mais il y a un revers de la médaille, évidemment, et on va y venir,
oui,
j'imagine.
Tout à fait. Oui, qui est arrivé, mais que très tardivement. C'est-à-dire que moi, après, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 16 ans, j'étais jeune. Je me suis mariée à 18 ans.
Oui, jeune mais très mature de fait, j'imagine.
Voilà, tout à fait. Mmh. J'ai eu un premier enfant à 20 ans, un deuxième à 24. J'ai créé ma propre famille. Je me suis trouvée une mère de substitution, en l'occurrence ma belle-mère, avec qui vraiment que je considère comme une seconde mère. Mmh. Et voilà, j'étais bien dans ma vie de couple avec mes enfants, mon mari, tout ce petit monde-là. Et voilà, et j'étais heureuse. Et puis, mon couple n'a pas duré. Il a duré grâce, entre guillemets, grâce à moi, puisque j'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça tienne, parce que c'était tellement important pour moi. Donc, il a quand même duré 21 ans. Mais au bout de 21 ans, c'était plus supportable. Donc, j'avais un mari absent aussi, comme mon père.
Ben oui.
Voilà. Mmh. Voilà. Et j'assumais tout. Tout.
Mais vous avez refait un tour du même manège, finalement.
Voilà, c'est ça. Mmh. Tout à fait. Donc au bout de 21 ans, j'ai décidé de partir parce que voilà, je ne me retrouvais pas dans ma relation familiale. Et donc je suis partie avec ma fille qui avait 15 ans et la grande était restée avec son papa puisqu'elle avait 19 ans. Voilà. Et depuis, c'est pour ça que je vous appelle, j'ai eu quelques histoires et à chaque fois, ça n'a pas réussi à fonctionner. C'est-à-dire, j'arrive pas à avoir de l'attachement, j'arrive pas à m'enraciner, j'arrive pas à avoir des sentiments vraiment profonds pour que ça dure, je ne sais pas comment vous expliquer. Et sans doute que ça vient de moi, je suppose.
Ça vient d'une partie très enfouie, très inconsciente de vous, mais je pense qu'il y a à l'intérieur de vous une partie qui a tellement peur d'être abandonnée à nouveau qu'elle elle s'autorise pas. D'abord, elle se place en position de dépendante quand même. Mmh. Et comme ça lui fait peur, cette partie-là, elle refuse de s'attacher, en fait. Il y a une espèce d'ambivalence. Et comme par hasard, vous allez systématiquement vous mettre dans des situations où soit c'est vous qui allez abandonner l'autre rapidement, soit vous allez vous faire quitter ou abandonner.
C'est ça, tout à fait. C'est ce qui s'est produit dans les 4 histoires.
Et voilà, oui.
Donc,
je dis on tourne en boucle avec des schémas qui se répètent jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la bonne ficelle sur laquelle on tire pour que ça s'arrête.
Voilà, moi j'ai 61 ans et là moi, maintenant, je suis en train... Voilà, c'est un bilan de sa vie quand même quand on avance dans l'âge. J'ai pas envie je préfère rester toute seule que de. Je suis pas bien seule parce que moi je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime les rapports humains. J'aime échanger. J'aime découvrir plein de choses. Je suis curieuse de tout et je suis dynamique. Voilà, j'ai 61 ans, mais voilà, je me bouge. J'ai 4 petits enfants. Je m'occupe beaucoup de mes petits enfants.
Oui,
j'ai encore
Françoise,
ma belle-mère.
Aujourd'hui 61 ans, c'est jeune. Hein.
Et j'ai vraiment envie de réussir la deuxième partie de ma vie, parce que 60 ans, dans 2-3 ans, ce sera la retraite. J'ai vraiment envie de vivre ma vie, d'une autre façon, d'une autre manière. Parce que je vais vous dire franchement, dans toutes les relations que j'ai eues, c'était pas moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de sensible, d'affectueux, de tendre, et j'ai toujours été dans un rôle plutôt masculin, devoir tout assumer. Oui. Et c'est pas moi.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Donc si je comprends bien, si ça continue, il va falloir que ça cesse, quoi, ce schéma-là.
Oui, hein. C'est ça.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce que vous dites. Effectivement, quand on est dans cet apprentissage de « je ne peux compter que sur moi », on fait appel à notre énergie masculine plus souvent que d'ordinaire. L'énergie masculine, on a tous une énergie féminine et masculine qui sont plus ou moins équilibrées. Chez certains, elle est en permanence trop masculine ou en permanence trop féminine. Chez les gens très équilibrés, les deux sont bien en phase.
Voilà.
Et sinon, on peut passer l'une à l'autre. Et c'est vrai que quand on a appris à ses dépens qu'on ne peut compter que sur soi parce qu'on a un père défaillant, une mère défaillante ou une histoire de vie douloureuse, on a tendance à piocher en tant que femme dans cette énergie masculine qui est l'énergie du combat.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Sauf que cette énergie masculine, elle complique les rapports amoureux avec les hommes, évidemment.
Bien sûr.
Parce qu'elle est presque dans une sorte de rivalité.
Mmh. Oui, je l'ai constaté. J'en ai fait moi-même l'analyse et j'en conviens tout à fait. Et c'est vraiment pas ce que j'ai envie maintenant, parce que maintenant j'ai plus rien à prouver. Je veux dire.
C'est ça, vous laissez tomber les masques un petit peu maintenant.
Voilà, c'est ça. Et une fois, j'avais fait un bilan de compétences, et la psychologue avec qui je l'ai fait, ce bilan de compétences, elle était super. Vraiment, on a tout descendu, mon histoire familiale et tout. Et elle a dit quelque chose. Ah, mais j'ai trouvé ça top. Elle m'a dit, je veux pas dire mon prénom, j'ai pris...
Gardez Françoise.
Elle a dit, vous êtes un colosse au pied d'argile.
Oui, c'est ça.
J'ai dit, oui, c'est ça. Parce que si vous grattez un peu, l'émotionnel, il est exacerbé. C'est pas du tout, je suis pas quelqu'un... Voilà, je suis forte, effectivement, parce que j'ai dû faire face à plein de choses dans ma vie. Mm-hmm. Et j'ai réussi. Et pour ça... Même dans le négatif, je trouve qu'il y a du positif parce que jamais je m'apitoie sur mon sort. Je suis quelqu'un de positif, vraiment. Tous les problèmes, je trouve des solutions. Pour moi, c'est comme ça. C'est... La vie, elle est ce qu'elle est. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit aussi de toutes ces épreuves. Mais j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. J'ai vraiment envie de douceur. J'ai envie de... Voilà,
c'est ça, l'énergie féminine en vous qui repointe son nez.
Voilà.
Et qui a envie d'aller retrouver un équilibre. Racontez-moi quand même en deux mots ces quatre histoires derrière. Quels ont été les scénarios un peu dans les grandes lignes?
Ce qui a fait que j'ai quitté mon mari, c'est que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Mm-hmm. Mais ça n'allait plus dans mon couple, donc ça a été l'élément déclencheur. La première personne que j'ai rencontrée. Mais cette personne n'était pas libre.
Oui.
Mais comme moi, je suis comme ça. Je ne peux pas... Et c'est plus féminin, on va dire. Je ne pouvais pas faire semblant, rester avec mon mari, alors que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé de me séparer de mon mari, alors que la personne que j'avais rencontrée ne m'avait fait aucune promesse. Elle était mariée, elle ne m'avait pas dit « je vais quitter ma femme pour toi ».
Pour vous, c'était peut-être aussi un déclencheur que vous attendiez.
Voilà, tout à fait. Donc j'ai quitté, je suis partie. Et puis, avec cette personne, ça ne s'est pas réalisé, les attentes. Donc on s'est séparés. Donc moi, je lui ai dit que, quels que soient les sentiments que j'avais pour lui, je me remets d'un grand courage pour lui dire que il valait mieux qu'on ne se voit plus, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'avenir. Après, j'ai rencontré une autre personne. Ça s'est bien passé pendant un certain temps. Et puis, il a quitté son travail pour venir me rejoindre, parce qu'on s'était connus, mais pas dans le même département. Et donc, il est venu chez moi. Et peu de temps après qu'il soit arrivé chez moi, il a perdu son travail.
Oui.
Et du coup, il reste à la maison. Et puis, il cherchait pas de travail. Et ça correspondait plus du tout à l'image... que j'ai, moi, de ces valeurs-là.
Et puis j'imagine aussi que vous avez une grande valeur liberté qui doit être importante chez vous.
Oui.
Et que là, il a créé une espèce de dépendance envers vous qui devait être assez lourde.
C'est peut-être ça, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais je ne me sentais pas bien de le savoir à la maison, qu'il ne faisait rien. Et puis, j'étais obligée de le pousser un peu pour qu'il aille s'inscrire à la NPE, faire une formation, tout ça. Alors que, parce qu'il n'avait pas la même vision du travail, de l'effort, parce qu'il avait une pension, c'était un ancien militaire, et il avait travaillé dans les sous-marins, il avait une pension au bout de 15 ans, quand on est militaire, on a le droit à une pension dans les sous-marins. Donc ça lui suffisait, il n'était pas pressé de trouver un autre travail. Mais quand même, il était jeune, donc ça cassait l'image masculine, si vous voulez.
Oui,
moi, j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je vis. Et là, du coup, ça s'est dévalorisé. Et puis, bon, voilà, petit à petit, ça m'a éloigné de lui.
Françoise, on va garder le quatrième pour dans un tout petit instant. On doit faire une pause, si vous le permettez.
Oui.
Et vous me racontez la dernière histoire dans une minute. Merci beaucoup. À tout de suite.
D'accord. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Françoise, vous êtes toujours là, ça n'a pas été long. Hein.
Oui.
Donc, exit le troisième et le suivant, alors, ça s'est passé comment ?
Eh bien, donc ça a correspondu à la période où ma fille a quitté la maison. Donc je me suis retrouvée seule.
Mm-hmm.
Et je supporte pas d'être seule. Je supportais pas à l'époque d'être seule. J'étais vraiment une grande dépendante affective.
Ben oui.
Et du coup, voilà, c'était le début des sites, vous savez, de rencontres.
Mm-hmm.
Je m'étais inscrite sur un site et donc j'ai rencontré quelqu'un comme ça.
Oui.
Et ça s'est plutôt bien passé. Divorcé avec deux enfants, mais il avait 10 ans de moins que moi. Et il avait une garde alternée de ses enfants. Donc au début, tout s'est bien passé. Je m'occupais beaucoup de ses filles. Et au bout d'un petit moment, on a décidé d'acheter une maison ensemble.
Mmh.
Et tant qu'on ne vivait pas complètement ensemble, puisque au début, on avait chacun notre appartement, il n'y avait pas de souci. Et lorsqu'on a acheté la maison, on a dû faire un prêt. Donc moi, j'étais co-emprunteur, puisque on n'était pas mariés, il n'y avait rien de tout ça. Et du coup, c'est là que j'ai découvert qu'il avait des problèmes d'argent. Bien sûr qu'il ne m'en avait pas parlé auparavant. Et du coup, il m'a emmenée dans une spirale de problématiques d'argent. Moi, j'avais 50 ans à l'époque. Et le fait que qu'on avait une échéance qui était prélevée sur un compte commun, j'étais interdit bancaire et tout. Et là, j'ai dit non, tu peux pas, tu peux pas continuer dans ce schéma-là, moi. Ça ne me correspondait pas non plus. Moi, je me suis toujours assumée financièrement. Et voilà. Il dépensait alors qu'il n'y avait pas l'argent. Il n'ouvrait pas ses relevés bancaires. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui avait des problèmes.
Mmh.
Et dû à l'enfance, lui aussi. Donc, je l'ai découvert après. Donc, ça s'est très mal terminé avec lui. Ça s'est très mal terminé. Il ne voulait pas quitter la maison. Il ne voulait pas la vendre. Je suis partie. J'ai payé la maison pendant 18 mois. Enfin, il m'a mis dans une galère financière. Énorme. Mais bon, j'ai rebondi. J'ai fait deux travails.
Là aussi, il y a quelque chose à en apprendre.
Oh là là, c'est là que j'en ai appris beaucoup.
Mais malheureusement, c'est souvent dans les plus grandes douleurs qu'on apprend.
Là, j'ai vraiment... Parce que ma problématique, c'est que je fonçais. C'est pour ça la personne qui a fini l'émission hier soir, là.
Ah oui.
Quand
oui.
J'entendais.
Vite. Dans chacune de ces phrases, il y avait le mot vite.
Je me suis retrouvée il y a quelques années. Parce que moi, je réfléchissais pas assez. J'étais pas assez dans l'introspection. J'étais tellement dépendante que je fonçais tout le temps par peur d'être... Voilà,
c'est la peur qui vous fait agir, en fait. C'était pas vous, c'est la partie de vous qui a peur.
Ouais. Et donc, du coup, depuis cette période, je réfléchis beaucoup plus. Et c'est pour ça que, justement, je me protège, mais je me protège tant que j'arrive pas à rencontrer. Maintenant, je rencontre plus personne parce que j'ai
mis des barrières. Et vous êtes passée d'un extrême à l'autre.
Voilà,
mais quand vous dites que vous réfléchissez, est-ce que vous réfléchissez toute seule ou est-ce que vous avez entamé une thérapie ?
Ah non, j'ai réfléchi toute seule. Je réfléchis toute seule, mais là, justement, c'est pour ça que je vous appelais, parce que justement, là, j'envisage de suivre une thérapie.
Oui. Je pense que vous avez fait un sacré beau bout de chemin déjà sur la compréhension de vous-même. Vous avez compris qu'il y a un schéma répétitif. Vous avez compris qu'il y a une dépendance. Moi, je vous éclaire aujourd'hui sur cette blessure d'abandon que vous reproduisez. qui vous met systématiquement, inconsciemment bien sûr, face à des hommes qui ne tiendront pas la route.
Oui.
Comme pour vous prouver à vous-même, tu vois, j'avais raison, ça va encore être une histoire où on m'abandonne.
Ah bon ?
Ou que moi je vais abandonner, mais c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Et en fait, tant que vous n'avez pas soigné ce comportement-là, cette blessure-là, ben vous remonterez sur le même manège et vous referez le même tour, avec un homme différent, mais ce sera fondamentalement le même genre de scénario. Quoi.
D'accord. Parce que moi, je pensais que c'était aussi, parce que quand j'ai vécu avec ma mère et mon beau-père, je me suis dit jamais je dépendrai d'un homme. Jamais. Parce que j'ai vu ma mère dépendre de cette personne. Donc je me suis toujours dit, tu t'assumeras.
Ce que vous avez fait, mais en même temps, tout à l'heure, vous m'avez dit, je déteste être seule.
Mais c'est pour ça, c'est paradoxal. Mm-hmm. Il y a deux paradoxes chez moi.
Mais il y a, je pense, la partie intellectuelle qui lutte contre la partie émotionnelle aussi.
Oui.
Et tout ça, c'est voilà, entre le féminin, le masculin, la partie intellectuelle, la partie émotionnelle, tout ça, c'est un combat. Chacun tire un peu la couverture de son côté, si vous voulez. La partie intellectuelle, elle sait, elle dit non, mais c'est bon, moi je suis une... J'ai besoin de personne, je m'assume financièrement, intellectuellement, matériellement, tout va bien. Puis la partie émotionnelle, il y a encore une petite fille qui est dépendante et qui va systématiquement se mettre dans des situations d'abandon de couple qui ne durent pas. Et elle se fait revivre en boucle la blessure qu'elle a vécue petite.
Et la thérapie, ça pourrait m'aider, vraiment ?
J'en suis persuadée, à condition de travailler sur cet axe-là, en priorité. Qui est vraiment l'axe d'aller libérer cette petite fille de ce schéma-là et de reprendre à la fois une maturité, un chemin de maturité et surtout suffisamment d'amour pour vous et d'estime pour vous pour que vous n'ayez pas inconsciemment l'impression que vous méritez d'être abandonnée. Parce qu'une fois de plus, vous savez, j'en parle souvent sur cette antenne, quand un enfant est maltraité, malheureusement, quand je dis maltraité, c'est qu'on ne lui a pas apporté tout ce dont il aurait eu besoin ou envie, moralement, je ne parle évidemment pas de matériel, là, je parle d'amour et de présence et de soutien. Malheureusement, dans son inconscient, il se dit souvent c'est de ma faute. Si j'avais été mieux, si j'avais été plus parfait, si j'avais été plus aimable, on m'aurait aimé. Papa ne serait pas parti, maman n'aurait pas bu, des choses comme ça qui se mettent en place très profondément dans l'inconscient. Bien sûr, la partie intellectuelle, elle ne se dit pas ça du tout. Quand on est adulte, on analyse les choses, on comprend. Mais la partie émotionnelle, elle est restée bloquée à une étape qui peut être celle-là.
Justement, c'est ça que je voulais vous demander, parce que je n'ai aucun souvenir d'enfance. Aucun.
Et ça aussi, c'est un verrou. Hein.
Ah oui ?
Ah oui.
J'ai aucun. Ma sœur et mon frère, ils disent des choses. Ils disent, tu ne te rappelles pas de ça ? Ah, je dis non. Aucun souvenir. Je ne me rappelle même jamais avoir vu mon père et ma mère ensemble. Jamais.
Oui, c'est aussi parce qu'effectivement, quand un enfant est malheureux, il s'enferme un peu dans son monde intérieur. Vous devez être une petite fille. Vous deviez être une petite fille qui rêvait beaucoup, qui était beaucoup dans son imaginaire.
Je ne sais pas.
Vous ne savez plus ? Ben oui, bien sûr.
Par contre, en tant qu'adulte, je sais que je peux être, comment dire, seule. Je ne vais pas forcément adhérer au groupe au début. Je ne sais pas comment vous dire. Dans le travail, par exemple.
Oui.
Il y a des personnes, elles font tout de suite un groupe. Mm-hmm. Moi, d'être toute seule dans mon bureau, de travailler, parce que je suis aussi perfectionniste, je ne supporte pas le vide, il faut toujours que je sois en action. Mais dans le travail, c'est parfait. Pareil, il faut que ça soit parfait.
Oui, c'est ce qu'on venait de dire, en fait. Vous avez probablement gardé de l'enfance une idée, quelque part, que si vous aviez été « parfaite », entre guillemets, les choses se seraient passées autrement. Ce qui est totalement faux, mais malheureusement, tous les enfants de la Terre fonctionnent de la même manière. Ils se prennent sur leurs épaules d'énormes responsabilités qui ne sont pas les leurs. Mmh. Et souvent on veut sauver notre mère quand elle boit ou quand elle a une dépression. On se dit « j'ai tout fait pour la sauver », on se culpabilise parce que papa est parti, alors qu'on n'y est pour rien.
Bah oui.
On n'y est pour rien, mais on grandit avec cette culpabilité-là ou cette blessure-là. Et effectivement, là, vous êtes passé dans l'extrême inverse, qui est « je ne veux plus m'attacher à personne, donc je ne rentre pas dans des groupes, même pour des relations professionnelles. Je ne tombe plus amoureuse parce que je sais que ça va... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça ne fonctionnera pas. » Et donc là, la vie est juste en train de vous dire « arrête-toi, fais une pause et soigne la blessure pour que ça change derrière. » C'est ça qui se passe. Comme, vous savez, quand on arrive à prendre conscience qu'on est dans les mêmes schémas, c'est qu'il y a un panneau stop qui est en train d'arriver.
D'accord. Ouais, d'accord.
Il va falloir que vous changiez le regard que vous avez sur vous-même pour commencer.
Oui, d'accord. Ouais, parce que j'ai vécu des choses pas faciles. Après, c'est ma fille que que j'ai dû porter et tout. Donc, donc là, j'ai envie aussi voilà, que ça change. Et aussi,
j'entends bien cette envie-là et c'est très important et tant mieux. On est vous savez, toute la vie est un éternel apprentissage.
Oui, oui.
Et une fois de plus, j'aime bien couper ce mot en deux.
Apprentissage,
Et oui.
Oui, un apprentissage. Ouais.
Chaque épreuve nous permet d'apprendre et de grandir quand on en a envie, parce qu'il y a des gens qui n'apprennent rien de leur vie, qui recommencent le même scénario tout le temps. Mais sinon, chaque étape de la vie sert à apprendre quelque chose. Donc c'est plutôt intéressant. Mais je pense que c'est difficile de franchir des étapes comme ça seul, sans se faire aider par un thérapeute quand même.
D'accord.
C'est important aussi de pouvoir se poser. Hein.
Donc un psychothérapeute.
Oui, par exemple, oui.
Hein
tout à fait.
Un psychiatre.
Non. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un suivi médicalisé là. C'est pas une pathologie. Vous avez besoin de parler, de que quelqu'un vous aide à faire les liens entre différentes étapes de votre vie et certains schémas répétitifs, et puis surtout d'aller soigner cette blessure là pour qu'elle se reproduise pas, pour que vous ne soyez plus dans une dépendance, ni dans un besoin non plus, ni dans une peur, mais que ce soit simplement des choses positives, de l'envie, du plaisir, du bonheur.
D'accord.
Hein? Ça se construit et chacun est responsable de son bonheur. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur de votre mère ou de votre père quand vous étiez enfant.
Oui. Mais ça, j'en ai bien conscience de ça. Parce que j'ai toujours voulu aider les autres et je me suis rendu compte que s'ils veulent posséder eux-mêmes, eh ben, qu'ils ne seront jamais heureux. Donc, je ne peux pas porter tout le monde non plus.
Ouais. Bien. Vous devenez aussi une apprentissage.
Oui. Ah ben, je m'intéresse beaucoup à la nature, à la science humaine.
Oui, j'entends.
J'écoute tous les soirs votre émission. J'apprends beaucoup de choses.
Bah, tant mieux.
Je trouve ça très intéressant. Et tous ces humains qui ont des difficultés, c'est la vie.
Tout
s'appelle la vie.
Bien sûr, tous ces partages sont toujours enrichissants. C'est ce que je dis tous les soirs. Hein. C'est vrai que c'est.
Ah ouais. Mais vous avez une approche tellement dans l'empathie, dans la bienveillance que c'est ça que je trouve formidable parce que. C'est ce que je disais aux petits jeunes que j'ai eu hier soir au téléphone. Dans la société actuelle, ça se perd tellement tout ça que voilà, je trouve ça bien qu'il y ait encore des émissions qui permettent ces choses-là, quoi, hein, de s'enrichir comme ça pour zéro centime, quoi.
Eh ben on est ravis, Sophie et moi d'être là pour vous tous chaque soir.
Ouais. Vous avez une voix très agréable en plus, je trouve.
C'est gentil, François. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas. Moi, je vais vous quitter, mais je vais vous laisser avec Hassan. Vous en faites ce que vous voulez, mais il me dit qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous. Donc voilà, je vais le laisser vous expliquer tout ça. Et si vous en avez envie, vous prendrez les coordonnées de ces personnes-là qui ont envoyé des messages pour vous pendant qu'on se parlait.
C'est gentil. Ben, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.
Et moi, je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur et d'équilibre pour la suite.
Ben merci. Merci Sabine.
Merci François, je vous embrasse.
Au revoir.
Europe 1. Et je vais maintenant faire la connaissance de Caroline. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci, je vous remercie. Comment dire ? J'ai découvert votre émission cette année parce que j'ai des problèmes de sommeil.
Il paraît que je suis un bon somnifère.
Ah, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui me disent s'endormir avec ma voix.
C'est vrai, en plus. Bon, en fait, comme vous pouvez le constater, je suis très bon public, mais c'est pas ce que je vis là, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je suis séparée du père de mon fils depuis 8 ans à peu près, de mon enfant. Et normalement, c'est moi qui en ai la garde, c'est-à-dire que j'ai fait les choses à l'amiable, en toute transparence.
Il avait quel âge quand vous vous êtes séparés ?
Oh là, alors attendez, on est en 2019, 2000, ça fait 8 ans.
Mais quel âge avait-il votre enfant ?
Mon enfant, mais il avait en 2011, ça fait 7 ans, il avait 7 ans.
D'accord, donc il en a 8 de plus aujourd'hui.
C'est ça, il a 14 et demi.
D'accord, ok, donc c'était un petit garçon, maintenant c'est un ado.
C'est ça.
Et vous avez eu sa garde. Comment ça s'est passé alors au moment de la séparation ?
En fait, c'est... disons que moi, quand j'ai dit à mon ex-conjoint que ma vie ne me plaisait pas avec lui, il m'a dit de partir, mais pas comme ça, hein, en d'autres termes, plus méchant.
J'imagine, oui.
Et donc, j'ai dû trouver un appartement. parce que j'avais beau lui dire, en principe, comme ce sont les femmes qui gardent leurs enfants, et ben, ce sont elles qui gardent l'appartement. Et ben, non, ça n'était pas du tout comme ça avec lui, puisque dans l'immeuble où j'habitais auparavant, il y avait d'autres femmes qui étaient séparées de leur conjoint, et c'est elles qui gardaient l'appartement. Moi, j'ai dû en trouver un. Donc voilà, ça c'est une partie de l'histoire.
Mais attendez, si je comprends bien, c'est vous qui partiez, donc peut-être il a été aussi vexé de ça, non ? Pour quelle raison d'ailleurs vous avez souhaité partir ? Ou en tout cas vous séparer de lui ?
Moi j'étais pas bien avec lui parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout démonstratif d'une part, qui ne communiquait pas beaucoup, très peu de communication, C'est-à-dire que moi, avec les sentiments que j'avais pour lui, je pensais qu'on allait évoluer à deux, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. Et ben, j'étais plus moi-même, en fait.
La flamme pour vous s'est éteinte, quoi.
Ben, oui, et on ne partageait pas les mêmes valeurs, je dirais. J'ai vu avec mon enfant aussi que ce n'était pas du tout ça, que ça ne prenait pas la bonne direction. Donc, moi, j'ai préféré partir, oui.
Et comment il l'a pris, en dehors de ce problème matériel d'appartement, comment est-ce qu'il a réagi moralement ?
Ben mal, je pense. Je pense qu'il n'a toujours pas digéré, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé ? Vous avez réussi à prendre un appartement pour votre fils et vous ?
Oui, j'ai pris un appartement pour mon fils et moi. Oui. Et donc, normalement, comme j'avais fait les choses à l'amiable, parce que, c'est-à-dire que travailler, élever son enfant, et s'il avait fallu en plus que je passe par la voie officielle avec un juge, un avocat, je ne vois pas comment matériellement j'aurais fait, parce que
ça coûte trop cher aussi. Non ?
Ça coûte cher, ça prend du temps. Oui. Donc déjà, moi, au début, je me suis mise à temps partiel quand j'ai eu mon fils. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé la naissance de mon fils, on m'a dit, mais tu sais, tu peux te mettre à temps partiel. Donc j'ai fait les calculs et tout ça, et j'ai vu que ça pouvait le faire. Donc là, je me suis mise à temps partiel, parce que quand j'ai vu que je cavalais partout pour ceci, pour cela, j'ai dit, bon, effectivement, en plus, je n'ai pas de voiture, donc je prenais les transports en commun. À l'époque, j'étais assez loin de mon domicile. Donc ça faisait beaucoup de choses accumulées, et donc j'ai pris un temps partiel. Et donc dans un premier temps, j'étais à 2/3 de mon travail, et après j'étais au 4/5, on va dire. Pendant 2/3 de mon travail pendant 2 ans et demi environ, et au 4/5 pendant 2 ans.
D'accord.
Et ensuite, il a fallu reprendre à temps plein.
Mais là, si je comprends bien, quand vous vous êtes séparés, rien n'a été acté. Tout a été simplement à l'oral, quoi.
Exactement.
Donc vous n'aviez aucun cadre juridique et aucune sécurité.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Eh bien, c'est-à-dire que mon ex-conjoint voyait bien mon fils un week-end sur deux, la moitié des vacances, et puis après le mercredi, et puis mon fils revenait le jeudi soir, par exemple.
Oui, ça se passait bien ?
Moyen, on va dire, ça dépendait des fois. C'est-à-dire que déjà, j'avais eu un avant-goût de son comportement à mon ex-conjoint.
Ouais.
Allô ?
Oui, je vous écoute.
Par exemple, un jour, je suis allée chercher mon fils à l'école primaire. Normalement, il était chez son père, et quand je suis allée à l'école primaire, il devait rentrer chez son père. Mais moi, j'étais là, en fait, et je suis allée le chercher. Et en fait, quand je me suis approchée de mon fils, il s'est mis à courir. Donc j'ai dit à mon ex-conjoint, tu te rends compte, il est à l'école primaire, il est jeune. J'ai dit, moi, je suis sa maman, je suis responsable de lui. Quand je vais le chercher, il reste à côté de moi. C'est la base. Et en fait, mon ex-conjoint n'explique pas du tout les basiques. Donc déjà là-dessus, il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
Oui.
Et j'avais dit à mon ex-conjoint, je lui dis, quand il est avec toi, il est avec toi. tu es responsable de lui. Quand il est avec moi, je suis responsable de lui. Enfin, des basiques, quoi. Des choses.
Mais sinon, sur le rythme, ça, c'était correct. C'est-à-dire qu'il vous le ramenait le dimanche soir, j'imagine.
Oui, oui, oui. Le rythme était
respecté, en tout cas.
Oui, à peu près respecté. Mmh. Et puis, j'ai toujours fait en sorte que si mon fils voulait aller voir son père sur d'autres jours, il pouvait. Enfin, il y a des choses qui se sont faites. Mais il s'est trouvé que deux fois après des vacances d'été, notamment, je rentrais de vacances complètement épuisée à avoir gardé mon fils pendant 15 jours, 24 heures sur 24. Et que je lui dis, tu vas un petit peu chez ton père et voilà quoi. Mais en étant fâchée, mais pas contre lui. Parce que moi, j'étais pas bien et que j'avais cumulé beaucoup de fatigue physique et morale et que j'étais pas bien. Et que... Donc voilà, pendant deux fois, mon fils est allé à peu près un mois et demi chez son père. Donc après, il revenait chez moi. Et puis, c'est arrivé une troisième fois. Et mon fils m'avait dit, maman, si ça se reproduit, tu me revois pas. Mmh. Donc la thérapeute que je voyais, elle me disait, donc c'est une façon pour lui de se protéger, ce que je comprends tout à fait.
C'est-à-dire qu'il se sent un peu ballotté d'un côté et de l'autre, quoi.
Bah peut-être, en tout cas, peut-être qu'il se dit qu'il peut pas totalement compter sur moi parce que. Comme à un moment donné, j'avais cumulé beaucoup, beaucoup de fatigue, et ben j'ai craqué. Oui. Et je n'étais plus... Enfin, je pouvais...
Oui, je comprends tout à fait, mais ça...
J'ai craqué, et en étant fâchée, j'ai dit à mon fils, eh ben, retourne chez papa. Oui. Je pense que vous ne voulez pas entendre mon fils. Et il m'avait bien dit, si ça se reproduit une autre fois, je ne reviens plus.
Oui.
Donc là, en fait, je rame pour que les choses reviennent à la normale. Et puis, je culpabilise. Je ne voulais pas passer par la voie officielle, mais je pense que je vais être obligée de le faire.
Attendez, pourquoi ? Parce qu'il a mis sa menace à exécution, c'est-à-dire qu'il n'est plus revenu ?
Ah ben, c'est-à-dire que mon fils, là, en 20 mois, je l'ai vu à peu près 20 fois.
C'est-à-dire
pour des sorties culturelles, on va dire, pour un suivi médical, pour des choses à faire tous les deux, mais je l'ai vu une vingtaine de fois en 20 mois.
C'est-à-dire que concrètement, il vit chez son père et il passe vous voir quand il y a un rendez-vous, quelque chose comme ça, c'est
ça ? Ah non, il passe même pas me voir. Hein. C'est-à-dire que pour Noël, j'ai eu un texto et je pouvais pas ouvrir son texto parce que moi, j'ai un petit portable de rien du tout. Et effectivement, et je lui ai dit après, je lui ai dit, mais moi, il m'est complètement égal ton texto, parce que je dis, moi, c'est pas ton texto que je veux, c'est te voir, te faire un bisou et te faire un câlin, déjà, pour commencer.
Mais concrètement, vous avez accepté qu'il bascule à temps plein chez son père, du coup, qu'il récupère ses
non,
affaires ?
Non, c'est pas que j'ai accepté, c'est que ça m'est imposé.
Par qui ?
Bah, par son père. Parce que, en fait, son père, il me dit... donc il est parti à 13 ans. Mmh. Et il me dit, il est en âge de dire à s'il passe devant un juge qu'il peut vivre chez son père. Ça oui, je l'entends. Sauf que moi, je vois pas mon fils, même pas une semaine sur deux, quoi. Enfin, même pas un week-end sur deux.
Et oui, le problème, c'est que là, c'est le retour du bâton de tout à l'heure. C'est qu'il n'y a aucun cadre juridique dans votre histoire.
C'est ça.
Et donc, votre mari en profite, il fait ce qu'il veut.
Oui, on est pareil, on n'était pas mariés.
Votre ex-conjoint, le papa de...
L'ex-conjoint.
Oui. Parce que certes, votre fils, bien sûr, à cet âge-là, a le droit de s'exprimer, d'être entendu et écouté, mais vous avez aussi des droits. Et là, vos droits sont complètement bafoués parce qu'il n'y a aucun cadre.
Bah, c'est-à-dire que ma crainte, c'est-à-dire que moi, comme j'ai des soucis de santé, par rapport à ce que j'ai entendu dire autour de moi, c'est que j'ai peur... La garde de mon fils.
Vous avez, pardon, il y a un petit moment qui est coupé, vous avez peur de quoi ?
J'ai peur de perdre la garde de mon fils.
Mais de fait, vous n'avez plus cette garde déjà.
Oui, mais est-ce que je ne sais même pas si c'est légal ce qu'il fait ?
Non, il n'y a rien de légal, mais en même temps, rien n'a été statué. Rien n'a été fait devant un juge, rien n'a été fait avec un avocat, ça s'est fait uniquement en accord verbal entre lui et vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vous parlez avec votre fils de cette situation ? Parce qu'il est quand même en âge de pouvoir échanger avec vous là-dessus.
Alors, on en a parlé. Moi, j'ai un vécu assez douloureux, on va dire. J'ai fait un travail avec la thérapeute, donc je pense avoir décanté un certain nombre de choses.
Mmh. Alors,
je me suis...
Oui, dites-moi.
Je me suis détachée d'un certain nombre de choses. Mais par contre, mon ex-conjoint, lui aussi, il a un vécu. Et lui, je pense qu'il a... Enfin, il peut me reprocher des choses, mais je pense qu'il y a un travail qu'il n'a pas fait non plus. Et bizarrement, j'en avais parlé à la thérapeute, puisque j'ai expliqué, j'ai entendu de loin ce que vous disiez tout à l'heure avec l'intervenante précédente, mais je ne voulais pas être influencée par ce qu'elle disait, mais je pense que je fais des répétitions de schémas aussi.
Mmh.
Et, mais là, je me disais, au moment où je pense avoir décanté des choses, au moment où je me suis détachée d'un certain nombre de choses, voilà, ça me retombe sur la figure.
Oui. Ce qui est important quand même dans ce que vous me dites, vous avez mentionné une maladie. Est-ce que
oui.
Vous voulez bien me dire de quoi il s'agit, que j'essaie de comprendre si ça peut avoir un impact sur ce qui se passera par la suite.
J'ai des médicaments pour dormir, pour...
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu peur de dire le mot.
Je sais quoi, dépression.
Oui.
Oui, mais c'est pas une maladie qui va vous enlever votre enfance.
C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'est pas ça non plus, parce que j'avais un métier que j'exerçais et j'ai dû commencer une reconversion,
mm-hmm.
parce que je pouvais plus l'exercer. Et là, je devais reprendre le travail à un moment donné, mais ça s'est présenté d'une drôle de façon. Et donc, je suis à nouveau arrêtée.
Oui, donc si je comprends bien, votre crainte, c'est le fait d'être un peu instable sur le plan émotionnel à cause de la dépression, et instable aussi sur le plan professionnel, ça n'incite pas un juge à vous confier la garde de votre fils, c'est ça ?
Oui, j'ai cette crainte-là, oui. Mmh.
Mais est-ce que c'est vraiment la garde ? Qu'est-ce que vous aimeriez dans une situation idéale ? Est-ce que c'est véritablement la garde à temps plein ou voir plus, simplement ?
C'est-à-dire que... À un moment donné, par rapport à ce qui s'était passé, mon fils avait fait la demande d'une garde alternée. Je lui dis oui, mais s'il y a la garde alternée, c'est la garde alternée pour tout. C'est-à-dire que papa doit prendre aussi les rendez-vous médicaux, faire ceci, faire cela, c'est-à-dire qu'on partage.
Bien sûr, bien sûr.
Or, ça ne se présentait pas comme ça de son côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais pris des rendez-vous médicaux pour mon fils et mon ex-conjoint m'avait envoyé balader en me disant « j'ai pas que ça à faire de prendre des rendez-vous pour notre fils ». Je lui dis oui, mais bon, c'est ça d'être papa ou maman.
Ah oui, il y a tout le temps des rendez-vous chez le dentiste, chez le kiné, chez ci, chez ça.
Chez le médecin, chez ceci, chez cela. Mmh. Enfin bref. Et donc...
Et lui, il a décrété ses règles à lui, en fait, si je comprends bien.
C'est tout à fait ça.
Alors, vous le voulez bien, Caroline, on va marquer une petite pause le temps des infos. Et on va poursuivre cette conversation pour essayer de démêler un petit peu qui a droit à quoi dans tout ça et comment on peut vous aider à avancer de manière positive, d'accord ?
Je vous remercie.
Vous ne bougez pas, je vous récupère dans un tout petit instant.
Oui.
À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Cœur de la nuit, nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne sur Europe 1, bien évidemment. Il nous reste donc une petite heure à passer ensemble pour échanger, pour parler de tous les sujets qui vous intéressent et qui sont les bienvenus. Un seul numéro de téléphone si vous souhaitez prendre la parole, le 3921. Comme tous les week-ends, Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir et à vous guider jusqu'à moi. Si vous êtes seul ce soir et que quelque chose vous attriste, que vous traversez une période de doute, de questionnement, prenez le temps de vous poser, de venir en parler. Mettre des mots sur une situation permet déjà souvent de prendre le recul nécessaire pour voir les choses autrement. Si vous avez envie de partager une expérience positive, vous êtes aussi les bienvenus. Il est toujours intéressant de découvrir des parcours de vie et des apprentissages qui peuvent nous éclairer. 3921 donc pour nous appeler par téléphone directement. Pour participer par SMS, je vous rappelle le numéro 739921 en commençant par le mot nuit. Et puis bien sûr toujours les mails libreantenne@europa.fr.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et nous allons donc poursuivre cette conversation avec Caroline. Vous êtes toujours là, Caroline ?
Oui.
Donc, si j'ai bien compris, votre fils a aujourd'hui 14 ans et demi.
Oui.
Bientôt 15. À l'âge de 13 ans, il est parti vivre chez son père, mais sans que rien ne soit encadré juridiquement. C'est-à-dire, c'était un accord verbal entre son père, lui et vous.
Bah, en fait, c'était quelque chose de tacite, même à ce niveau-là, là, à partir de ses 13 ans.
Quelque chose
c'était
de...
De tacite, c'était même pas oui. quelque chose d'expliqué verbalement.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est parti chez son père et point barre, quoi. C'était
oui.
ça, voilà.
Sauf
c'est
que ça.
Ça, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez, en fait ?
Dans un premier temps, de toute façon, ce qui s'est passé, moi, j'étais complètement perdue parce que je croyais entendre mon fils le matin et il n'était pas là. Donc, au départ, j'ai pas compris, en fait. J'ai mis un bout de temps à réaliser.
Oui.
Et puis je me disais, c'est pas possible, c'est complètement surréaliste, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. La garde alternée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est si évident que ça à mettre en place, on va dire. C'est quelque chose qui est controversé. Et effectivement, parce que là, avec mon ex-conjoint, on n'a pas du tout la même façon d'éduquer notre fils, ce que j'ai dit plusieurs fois à mon fils par texto. Mmh. Et on n'a pas du tout les mêmes règles de vie. Par exemple, là, mon fils, il a un portable qui coûte très très cher. Il a accédé à une activité à laquelle j'avais dit non parce que c'était trop cher. Il a de l'argent de poche. Moi, je ne vais pas lui donner de l'argent de poche parce que déjà, je ne le vois pas. Enfin bon, des choses, voilà.
Mais pourquoi votre ex-conjoint a des moyens importants ?
Non, pas spécialement. Ben non, c'est tout le... Non, pas du tout.
Oui, c'est curieux comme façon d'éduquer son enfant, alors.
Oui, pas du tout. Non, non, il n'a pas du tout les moyens, justement. Et donc, disons que comme mon fils voit son papa, je me disais que maintenant, je serais obligée de passer par la garde alternée, mais moi, j'aurais besoin d'un éducateur ou quelque chose comme ça par rapport à mon fils, parce que mon fils, qui est adorable, mais qui peut être très désagréable et se comporter pas bien du tout, j'aurais besoin de quelqu'un, mmh. parce que je suis pas très entourée et que j'ai besoin d'aide.
Mmh.
Et enfin, j'ai déjà de solliciter de l'aide par ailleurs, mais en gros, je me débrouille toute seule. Et donc voilà, la garde alternée, oui, parce que mon fils, il est habitué à voir son père, mais en même temps, moi, j'aurais besoin d'être secondée parce que pour faire entendre des choses à mon fils, quoi.
Oui.
Et à son père également.
Est-ce que vous êtes en contact avec l'école de votre fils, la directrice ou des gens qui le côtoient au quotidien ?
Je suis en contact avec l'infirmière et la CPE.
Oui.
Et j'en ai vaguement parlé au principal.
Et qu'est-ce qu'on vous dit de ce côté-là ?
Bah, très très vaguement parlé au principal. À l'infirmière. L'infirmière m'a dit de m'adresser à l'assistante sociale, mais les assistantes sociales, j'en ai vu deux.
Oui, justement, en fait, j'allais vous poser la question aussi, bien sûr.
Et en fait, ce qu'on me dit, c'est de passer par un juge et un avocat,
mm-hmm.
ce que je ne voulais pas faire.
Oui.
Et là, je vais être obligée au moins de passer par un juge, déjà.
Mm-hmm.
Et j'ai la crainte de son jugement, de sa décision, de la décision qu'il pourrait prendre.
Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'aujourd'hui ?
De ne plus voir du tout mon fils. Mmh. Et puis à un moment donné, il va falloir que je sois capable de reprendre mon travail. Hein. Donc il y a les deux.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait de reprendre votre travail ?
Je change de métier. Ça n'a plus rien à voir.
Oui.
Ça n'a plus rien à voir du tout. Ça n'a plus le même sens du tout, c'est carrément autre chose dans le service public, mais c'est une possibilité, mais ça n'a plus rien à voir du tout avec ce que je faisais auparavant parce que je suis plus capable de le faire.
D'accord, mais quel rapport avec votre fils a le changement de métier ?
Je sais pas, peut-être la conjugaison des deux, en étant toute seule, c'était lourd. De toute façon, c'était mon ancien métier, toute seule avec mon fils, c'était déjà lourd.
Oui. Je vous sens un peu perdue, hein, Caroline, dans tout ça.
Oui, c'est ça.
Et
C'est exactement
seule
ça.
aussi. Il n'y a pas de famille autour de vous pour vous soutenir un peu, pour vous aider?
Ben, j'ai des amis de longue date, mais qui ne comprennent pas spécialement ce que je leur dis parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et que, comme a dit la dame auparavant, on est dans une société qui est de plus en plus difficile et que si on pouvait communiquer plus aisément avec les gens, ben, je ne serais pas passée par l'émission, ça c'est sûr. Mais qu'à l'époque actuelle, elle est très très difficile. Et que c'est de plus en plus chacun pour soi. Donc par moments, c'est super dur. Et que trouver. Là, vous avez une super écoute, vous êtes dans l'empathie. Mais moi, de mon côté, voilà, je ne sais plus quoi faire, en
Il n'y a
fait. Parce que
personne, quoi.
j'ai frappé à différentes portes et j'ai pas. Ben,
Alors, on va essayer de prendre les choses une par une. Au niveau du travail, vous êtes supposé commencer quelque chose dans combien de temps?
Ben, en fait, j'avais commencé quelque chose, j'ai recommencé quelque chose en 2015.
Oui.
J'ai commencé un nouveau travail pendant un an et demi. Ça s'est très, très moyennement passé dans le sens où j'étais très, très fatiguée et que comment dire, j'avais besoin de beaucoup de concentration pour faire ce que je faisais. Et que en fait, j'encaissais des choses parce que j'étais pas capable de réagir. Et que après, j'ai à nouveau craqué parce que j'ai, en plus, j'étais sur un lieu de travail et j'ai changé de lieu, donc là, ça s'est pas bien passé. Enfin, j'ai pas résisté, en fait, je suis pas
D'accord, mais
restée.
concrètement, Caroline, aujourd'hui, ça en est où?
Bah, concrètement, je suis arrêtée. Je devais reprendre mon travail et disons qu'on m'a présenté des conditions de travail qui m'ont un peu effrayée parce que j'ai eu l'impression en lisant le contrat de travail que je pouvais être amenée à changer de travail quand bon semblait à la direction. Et donc moi, ça m'a fait très très peur. Et je me suis dit ça, avoir ça en tête. Plus suivre l'éducation de mon fils, je me suis dit, je ne sais pas si je vais y arriver.
D'accord.
Et donc, par rapport au plan professionnel, je me suis adressée à différentes personnes. Et voilà quoi.
Donc là, vous êtes en arrêt maladie, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous êtes soigné? Parce que là, j'entends bien qu'il y a une dépression qui est encore bien présente. Est-ce que vous avez un traitement pour ça déjà?
Oui.
Est-ce que ça va mieux?
Bah, disons que comme je suis très très fatiguée, j'essaye de faire des choses, mais j'ai besoin de temps pour récupérer.
Est-ce que vous voyez un thérapeute en plus des médicaments?
Normalement, j'ai une thérapeute, oui.
Pourquoi normalement?
Parce que là, je la vois pas.
Et pourquoi?
Bah parce qu'à un moment donné, j'ai exprimé des choses et j'ai pas eu de réponse par rapport à ce que je vivais avec mon fils. Et je me suis dit, je trouve pas ça normal. Et donc,
Qu'est-ce que vous attendiez comme réponse de la part d'une thérapeute?
bah, comment dire, j'entends bien qu'un thérapeute, il fait son métier, il est à l'écoute. Et qu'une fois qu'on a fermé la porte de chacun chez soi, bah, la thérapeute, elle est dans son milieu professionnel et moi, je rentre dans ma vie privée. Et voilà, ça s'arrête là.
Oui, mais
Et
ça, c'est normal,
que.
non?
Oui, bien sûr, c'est normal, mais quand vous souhaitez de l'aide, c'est difficile, quoi. J'attendais au moins une réponse et j'ai eu aucune réponse. Hein.
Oui, mais je pense que c'était peut-être pas les bonnes questions à la bonne personne. Peut-être que c'est. Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs messages qui arrivent pour vous. Attendez, je suis en train de les lire en même temps. Il y a Giovanni qui nous dit qu'il se sent très concerné par votre histoire et qu'il aimerait rentrer en contact avec vous si vous l'autorisez. Donc on verra ça tout à l'heure après avoir parlé toutes les deux.
Giovanni, donc c'est un homme.
Oui. Il y a Michel, une femme, qui me dit « Vous n'avez pas le choix que de prendre un avocat. Je vous sens perdue. Si vous avez besoin d'être épaulée, vous pouvez m'appeler. »
D'accord.
Il y a Laurence qui nous dit « Si vous souhaitez une aide sur l'éducation, il faut vous adresser au conseil départemental. »
Alors, sur l'éducation, le conseil départemental.
Et moi, je pensais aussi à quelque chose, avant que j'oublie de vous le dire, l'association Phare, comme un phare.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Qui s'occupe beaucoup des jeunes et des parents qui sont dans des situations difficiles.
Association Phare, comme un phare.
Comme un phare.
P-H-A-R-E.
Oui, tout à fait. C'est sur le site phare.org, vous trouverez ça sur Internet.
D'accord.
Ils peuvent aussi être très efficaces pour vous rediriger. Bien évidemment, service social de votre mairie.
Là, j'ai fait ce qu'il fallait.
Leur demander de vous orienter. Et puis, une aide juridique, maintenant, c'est impératif. Parce que là, vous ne pouvez pas rester hors cadre comme ça. Ce n'est pas possible.
Une aide juridique, ça veut dire juge et avocat ou juge et avocat ?
Peut-être d'abord, j'irai avocat. Au moins un conseil. Un premier rendez-vous de conseil par un avocat. Avant même de parler de procédure de juge, faire un vrai point sur tout ce qui est statut juridique avec quelqu'un dont c'est le métier.
Ah, je pensais que c'était dans un premier temps le juge, d'accord.
Je pense qu'il vaudrait mieux que vous voyiez quelqu'un, un avocat. Vous savez que vous avez droit à des aides, des avocats, qu'on appelle ça, le nom m'échappe.
Oui, j'ai eu ça, en fait.
L'aide juridictionnelle, je crois que c'est ça, voilà.
Oui, c'est ça, mais je l'ai... Voilà, je... Ben, j'ai eu mon quota, on va dire.
C'est-à-dire ?
Ben, parce que je ne peux pas en bénéficier.
Ah. Vous avez déjà fait appel à eux, c'est ça ?
Oui.
Mais je croyais qu'il n'y avait aucun cadre juridique dans vos échanges avec votre mari.
Ben, c'est... Ah non,
enfin, votre ex-conjoint, pardon.
Non. Moi, c'est-à-dire que j'ai commencé vaguement des démarches. C'est-à-dire que j'ai vu par une association une assistante juridique, une fois.
Oui.
Après, j'ai vu une avocate, une fois. Et c'est tout ce à quoi j'ai le droit gratuitement, on va dire. Voilà quoi. Voilà.
Alors, je sais qu'on peut trouver quand même des systèmes d'aide juridique qui sont pas trop chers, ne serait-ce que pour un rendez-vous, parce que là, il est vraiment temps de poser des cadres dans tout ça.
Ben, c'est ça.
Donc, c'est ça qu'il faudrait aussi que vous trouviez, peut-être par une assistante sociale, qu'elle vous trouve un système, même si c'est payant, mais pas trop. Il y a certains avocats qui sont quand même très accessibles, qui font des consultations d'une demi-heure, par exemple, des choses comme ça, qui pourraient au moins vous orienter sur vos droits.
Excusez-moi, là, vous avez parlé d'une assistante sociale, hein.
Oui, il y a certaines assistantes sociales qui pourraient vous orienter
d'accord.
vers des systèmes juridiques qui sont accessibles. Peut-être pas gratuits, mais pas trop chers. Il y a
d'accord.
des systèmes chez certains avocats de consultation qui ne durent qu'une demi-heure, par exemple, pour des gens qui ont peu de moyens.
Mm-hmm.
Sans se lancer, il y a certains avocats, vous avez à peine dit bonjour, il faut payer 500 euros. Mais sans aller jusque-là, je rigole, mais malheureusement, c'est vrai.
Oui, je sais bien.
Mais Dieu merci, il en existe beaucoup d'autres qui sont quand même très accessibles.
D'accord.
Donc il faut que vous arriviez. Peut-être que l'association Phare peut vous orienter vers des gens comme ça. Il y a plusieurs choses. Il faudrait déjà vraiment que vous arriviez, vous, à vous soigner. À soigner cette dépression et avoir l'intérêt.
Je pense que j'ai décanté quand même pas mal de choses là. Mais comme du côté professionnel, c'est pas exactement ça.
Voilà, là aussi, deuxième souci. Est-ce qu'il y a moyen que ça change ? Est-ce que vous pourriez envisager d'aller vers autre chose ?
Je pense pas, non, parce que je suis pas toute jeune. C'est-à-dire que je suis pas toute jeune sur le marché du travail, malheureusement. Et on va dire que je suis relativement jeune dans la vie, on va dire, tout est relatif. Je pense pas. Je pense pas parce que le problème, c'est qu'il y a la réalité, il y a le... Voilà, il y a les factures,
D'accord. Donc ça, il va falloir que vous arriviez à reprendre le boulot. Donc être suffisamment forte pour y aller. Autre point important, votre fils. Si demain, un avocat vous donnait le droit de le garder à temps plein, mais que lui ne souhaite pas le faire.
Ah non, mais à temps plein, c'est pas... Excusez-moi, vous avez dit, j'ai perdu un peu le fil.
Si demain, la justice vous donnait le droit d'avoir votre fils soit à temps plein, soit en garde partagée, mais que lui ne le souhaitait pas.
Je serais très très mal, ça me ferait très mal. Ça me ferait très mal de voir que mon fils a un week-end sur deux et que la moitié des vacances, ça me ferait très très mal.
Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas plus souvent, lui, de lui-même? Parce qu'il a bientôt 15 ans, c'est un grand, quand même.
Je pense qu'il est quand même... Moi, j'avais l'impression qu'il était plus mature que ça, et je pense qu'il est quand même sous influence.
D'accord, c'est ça que vous craignez.
Oui, quand même. Parce que son père dit que non, mais enfin, il a une certaine aisance pour faire passer des messages qui ne sont pas tout à fait vrais.
Et vous pensez qu'il est manipulé, en fait?
Oui, un peu quand même, oui. Ouais. Un peu, oui.
Ah, il y a Ninou qui vient d'envoyer un petit message pour vous qui dit que dans chaque ville, il y a la maison des avocats avec des consultations gratuites.
Moi, ça ne s'appelle pas comme ça, mais j'ai été dans une association, oui. Vous dites la maison des avocats, mais dans chaque ville.
Oui, c'est ce que dit Ninou.
Je vais voir.
Ça, je pense que vraiment c'est important, mais... Après, une fois de plus, il faut vous attendre à ce que vous ayez certainement des droits et effectivement de revoir votre fils plus. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir l'obliger à quoi que ce soit.
Ben, en fait, le connaissant, parce que je lui ai parlé de l'éventualité de voir un juge.
Oui, qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, je lui ai dit à ce moment-là, si je passais devant un juge... Tu pourras t'exprimer et dire à ce moment-là, je veux vivre chez papa. Mmh. Et lui, il m'a dit, non, tu ne vas pas faire ça, on n'en est pas là, ou on ne va pas en arriver jusque. Il m'a dit, tu vas trop loin, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, quelque part, je pense qu'il protège quand même son père, mais je suis sûre, connaissant mon fils, que s'il devait se prononcer, ça lui ferait mal, quoi. Je pense que s'il devait se prononcer, entendre ce qu'il dit, je pense qu'il y aurait quand même une sorte de déclic le concernant. Et je pense aussi que mon ex-conjoint doit entendre également des choses. Moi, je veux bien entendre des choses, mais il faut que les deux autres entendent des choses également, quoi.
Et est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous avez tenté, ou est-ce que vous pourriez tenter de parler avec votre ex-conjoint? En lui disant, écoute, soit on calme le jeu et je vois mon fils plus souvent, soit je pars en justice.
Bah oui, je peux essayer ça, oui, c'est sûr.
Peut-être que ça éviterait finalement tout ça, puisqu'il est quand même, relativement grand, déjà, votre fils. C'est pas une bataille pour des années, c'est une bataille pour... Il est majeur dans 3 ans.
Hein. C'est ça le problème, donc, c'est que le temps passe vite.
Voilà, hein. C'est ça. C'est pour ça que finalement, je me dis que... Je sais pas, hein, mais peut-être que si vous alliez lui dire, écoute, maintenant... On trouve une solution pour que je le voie davantage, c'est un week-end sur deux, c'est peut-être des vacances scolaires, et que je puisse m'impliquer davantage dans sa vie. Sinon, j'amène ça devant la justice. Et vous voyez comment il réagit.
C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce qu'il prépare de son côté, parce que il y a un moment, il m'a appelé, il m'a dit « J'ai besoin de tel document personnel de ta part pour l'inscrire à telle activité. » Je lui ai dit « Je ne te donne pas ces documents, ce sont des documents personnels. » Et il a fait rappeler mon fils. Alors mon fils, je lui ai dit « T'as 14 ans et demi, mes papiers personnels ne te concernent pas. » Et donc, j'ai raccroché au téléphone en étant très en colère. Et donc, j'ai fait la démarche de mon côté pour inscrire mon fils à son activité. Mais je ne sais pas pourquoi mon ex-conjoint m'a demandé des papiers autant personnels.
Bah, c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il faut crever l'abcès maintenant, hein, Caroline. Vous lui dites soit on arrive à trouver un terrain d'entente et on essaye de rester dans une situation à peu près calme, on va dire, sans conflit. Soit il se trame des choses qui sont pas claires et dans ces cas-là c'est la guerre, quoi.
Oui, mais moi c'est pas, j'ai jamais voulu ça, quoi.
Ah, y a Kat qui nous dit peut-être devriez-vous souscrire une protection juridique par votre assurance, par exemple. C'est vrai, quelquefois on a droit à des conseils téléphoniques juridiques. C'est pour l'assurance. On a toujours une assurance pour la maison, pour la carte bancaire, pour des choses comme ça.
C'est ça, mais je oui.
Renseignez-vous aussi de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a quelquefois des conseils juridiques au téléphone possibles. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas les spécialistes de ce genre de situation, mais ça peut vous aider sur des choses matérielles.
Bah après, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous dites, c'est que le temps passe vite et que dans 3 ans et demi, il va être majeur.
C'est, bien ça, c'est pour ça que je vous dis que tentez quand même peut-être une dernière fois quelque chose à l'amiable, finalement. En lui disant que voilà, que vous ne voulez pas la guerre, que ce que vous voulez, c'est le bien de votre enfant.
Oui.
Mais que si il n'y a pas de respect et s'il n'y a pas d'échange, dans ces cas-là, vous êtes prête à vous faire aider pour aller plus loin et le mettre dans un cadre juridique, avec des obligations.
D'accord.
Histoire de ne pas le laisser faire exactement ce qu'il veut, quoi.
D'accord.
Hein ? Et puis surtout, prenez soin de vous, Caroline, parce que c'est ça le plus important. Il faut que vous teniez debout pour vous déjà, puis pour votre fils après. Hein.
Ben ça, je sais, mais moi, sans mon fils, je ne suis pas complète, quoi. Je ne suis pas complète sans mon fils. Hein. Moi, je ne suis pas... ouais.
La dépression, on en sort. Hein. Je vous assure qu'on en sort un jour. Donc, prenez bien vos traitements. Si vous pouvez retourner voir un thérapeute, parce que vous me dites vous n'avez pas eu les réponses que vous attendiez, mais je pense que vous attendiez peut-être beaucoup d'une seule personne.
Non, on l'a déjà, c'est ce qu'on m'a dit.
Ben oui. Ce n'est pas son rôle de répondre à tous vos problèmes. Son rôle, c'est de vous accompagner à sortir de la dépression et à aller mieux déjà ça.
Hein ? J'en suis consciente.
Donc, entourez-vous de pas d'une seule personne, mais de plusieurs. Appelez l'association Phare. Essayez de trouver la maison des avocats. Essayez de parler à votre ex-conjoint pour lui proposer quelque chose de j'allais dire à l'amiable. C'est même pas ça, mais simplement un terrain d'entente en bonne intelligence. Vous voyez ce que si je puis dire pour le bien de votre fils.
Oui.
Tout en lui faisant savoir qu'à un moment donné aussi, vous allez reprendre vos droits.
Oui.
Et que donc, vous n'êtes pas en train de supplier que ça se passe calmement, mais de lui proposer une situation intelligente et posée pour tout le monde. Et que s'il n'est pas capable de l'accepter, dans ces cas-là, vous irez plus loin. Et comme ça, votre fils ne pourra pas non plus vous reprocher d'avoir secoué immédiatement les avocats ou le juge. Vous pourrez lui dire, voilà, j'ai proposé à papa une situation, une solution plus intelligente, une gestion des choses partagées. S'il le refuse, ce sera sa responsabilité, pas la mienne.
D'accord.
Hein ?
D'accord.
Alors, ce que je vous propose, Caroline, c'est que vous ne raccrochiez pas. Nous, on va se quitter et je vais vous passer à Hassan qui pourra vous donner les coordonnées de plusieurs personnes qui souhaitaient vous parler, peut-être vous soutenir même après cette émission.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Courage, Caroline.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous appeler tout au long de l'émission. Vous faites le 39-21 et si jamais on n'a pas le temps de se parler assez longuement ce soir, eh bien nous reprendrons notre conversation demain soir. Et c'est maintenant Marie-Laure que j'accueille. Bonsoir Marie-Laure.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci, bienvenue aussi. Vous êtes maintenant dans ma maison.
Une très jolie voix Marie-Laure.
Merci, et surtout que ça me touche beaucoup parce que quand j'entends ma voix, je ne la supporte pas. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un travail parce que c'était pour s'aimer, il faut aussi aimer bien sûr sa voix.
Alors ça, c'est un cheminement effectivement, mais il faut quand même reconnaître qu'on n'entend jamais notre propre voix telle qu'elle est. Nous, on l'entend de l'intérieur avec une résonance qui n'est pas la même que celle qui est à l'extérieur pour les gens qui nous écoutent.
C'est ce qu'on m'a expliqué. Mmh.
Cela dit, j'imagine que ce n'est pas pour me parler de votre voix que vous m'appelez.
Non, quelque part oui, parce que les auditeurs vont comprendre. Si j'y repense pour à la fin de ce que j'ai à vous transmettre. D'abord, bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de France et du monde, j'espère.
Bah, évidemment.
Voilà. Donc, je vais avoir 50 ans le 19 août.
Oui.
J'ai été violée à l'âge de 14 ans. Comme c'est moins de 15 ans, ça tombe sous le coup de la pédophilie.
Par qui ?
Par mon moniteur de colonie de vacances.
Oui. Ça a été dit à l'époque tout de suite ?
Non. Alors, deux ans après, il y a eu agression sexuelle par mon professeur de saxophone à La Roche-sur-Yon, à l'école de musique de La Roche-sur-Yon en Vendée. Et donc, j'ai porté ça pendant 35 ans. J'ai eu plusieurs choses assez graves qui me sont arrivées. Déjà, le décès de mon papa, que je découvre dans son lit le 8 février 1988. Suite à ça, ma maman fait un cancer du sein au départ. Et puis ensuite, ça va se généraliser malheureusement. Le passe. Et donc, j'ai eu deux graves dépressions dans ma vie. Quand mon ex se mariait, a demandé le divorce. Ensuite, j'ai eu du harcèlement au travail. Ça a été très loin. J'ai failli me suicider. Pourtant, j'avais un psy qui m'accompagnait. J'avais mes deux enfants, mes deux filles et mon mari. Ensuite, j'ai rencontré le deuxième homme de ma vie, qui s'appelle Nicolas. Et il m'a quittée en octobre. Suite à ça, j'ai refait à nouveau une deuxième dépression. Et là, je me suis fait interner en hôpital psychiatrique pendant trois semaines. J'ai repris le boulot, après ça n'allait pas très bien, donc je me suis fait arrêter une semaine, après j'ai repris, je vais chez une amie donc qui est donc rue de Strasbourg, qui tient Joséphine Café.
Ne donnez pas trop de noms et de précisions, s'il vous plaît.
D'accord, pardon.
On n'est pas là pour ça sur cette antenne. Merci.
Ben, pas de souci. Donc, voilà. Et je dépose... j'avais une étoile qui était là-bas, qu'elle m'avait exposée. Et je récupère mes toiles, mais j'avais vu une affiche comme quoi Josiane Balasco était à la FNAC de Nantes. Donc, je me rends à la FNAC de Nantes, je rencontre Madame Balasco, qui me dédicace son livre, et qui nous transmet énormément de choses pendant une demi-heure. Il y a deux phrases qui m'ont énormément touchée. C'est « À l'époque, on n'aurait pas misé deux chevaux sur moi ». Et une rencontre peut... Enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de belles rencontres, et une rencontre peut changer le cours d'une vie.
Tout à fait.
Et j'ai donc eu cette... j'arrive pas à trouver le terme. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé, puisque suite à la rencontre...
Une révélation, on peut dire, non ?
Oui, ouais, on peut dire ça. Ouais, ça a vraiment été le défi. Et donc, là, j'ai porté plainte pour ces deux faits que la justice qualifiera. Donc, le 19 mars.
Il n'y a pas de prescription ?
Alors ça, justement, c'est un mot qu'en tant que victime, je peux vous assurer, ça, c'est un mot que je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie.
Donc,
mais comment ? Enfin, vous ne pouvez pas savoir, nous, en tant que victime, ce que ça nous fait d'entendre qu'il y a prescription. C'est-à-dire que le violeur, il peut aller sodomiser, voilà, hein, des petits garçons, voilà. Et en tant que victime, si ça a eu lieu 30 ans après, notre parole, à nous, victimes, elle ne peut pas être écoutée.
Ouais. C'est extrêmement violent.
Et on est en 2019. Mais c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Et moi, Marie-Laure Blanchard, moi, j'ai plus peur de la religion, des religions.
Marie-Laure, si je ne peux pas vous garder à l'antenne, si vous donnez systématiquement des noms de famille, des lieux,
d'accord,
des choses trop précises,
bon,
vraiment, ça ne va pas être
très
possible.
Bien. D'accord. C'est que nous, les victimes, maintenant, on n'a plus peur. Et nous, maintenant, on est prêts, justement, à témoigner. Et le message que je voudrais pas faire passer ce soir, excusez-moi hein, si j'ai pas bien respecté le cadre, c'est que même s'il y a des lettres de prescription, c'est vraiment porter plainte. Parce que moi, ça m'a vraiment permis de me libérer et vraiment de vivre ma vraie vie.
Bien sûr. Ce que j'aimerais comprendre, quand vous étiez petite et que c'est arrivé, est-ce qu'au moins vous en aviez parlé à vos parents à l'époque ?
Non, à personne. Personne n'est au courant. Personne jusque-là, jusqu'au 19 mars, n'était au courant.
Donc, dans les deux cas, vous avez gardé tout pour vous à l'intérieur ?
Dans les deux cas, j'ai gardé tout pour moi à l'intérieur. Et dans le premier cas, je me suis mis en autoprotection. Puisque les viols, je ne m'en souviens absolument pas, mais je sais qu'ils ont eu lieu. Et on se met en... comme si notre esprit... se protégeait et qu'on partait de notre corps.
Ça s'appelle un choc post-traumatique, c'est connu. Hein.
D'accord.
C'est un grand classique, dès qu'il y a des traumatismes, notamment des viols, c'est tellement insupportable que c'est comme s'il y avait un volet roulant qui s'est fermé d'un coup et qu'on on se sépare de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle le blackout aussi. Parce que c'est trop insupportable pour le cerveau d'enregistrer ce qui s'est passé.
Ouais.
Mais donc, malheureusement, ça reste ancré en vous, bien évidemment, et dans votre plus profond de votre inconscient, vous vous souvenez de tout, de chaque seconde de ce moment-là.
Oui.
Mais c'est enfoui.
Oui, et c'est ça aussi qui est très difficile en tant que victime et insupportable. C'est comme si on nous demandait de vivre une deuxième Shoah.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, j'ai mon esprit, c'est à 14 ans, quand ces faits-là ont lieu, vous voyez, c'est quand même incroyable ce qui se passe, que le cerveau, ce que l'être humain est capable de faire. Mmh. Et là, maintenant, si jamais le procureur donne suite, moi, la justice me demande de revivre ces viols.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que régulièrement on parle de ce genre de situation à l'antenne et c'est une peine à vie en fait, quoi qu'il se passe.
On ne comprend pas. Pourquoi vouloir. Je ne sais pas quoi.
Alors ce qui est important dans ce que vous avez dit, Marie-Laure, c'est que là, le fait d'avoir osé porter plainte, ça a été comme un déclic, le début d'une reconstruction.
Complètement.
Et concrètement, ça se passe comment? Vous allez voir quelqu'un?
Alors, je ne donnerai pas de nom. J'ai bien compris.
Merci.
Donc, il n'y a pas de souci. Excusez-moi pour les fois, j'étais pas au courant que.
Voilà. Ah, on évite les problèmes derrière.
Ouais, bah,
mais dans les
ouais,
dans l'élan, ça peut arriver. On est tous des êtres humains.
Hein. Ouais. Et donc, je suis accompagnée par un psy, mais j'ai toujours été depuis l'âge de mes 18 ans. Alors avec des moments de pause, hein, mais je sais que tout seul, on peut pas s'en sortir. C'est impossible.
Mais c'est beaucoup trop lourd.
Ah non, c'est beaucoup trop lourd. Et ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est que, mais là je pense que vous serez d'accord, c'est une association qui lutte contre le viol. Vous serez d'accord que je donne le nom à l'antenne ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors ça s'appelle Collectif Femmes contre le viol. Et vous pouvez tous faire quelque chose ce soir, demain et après-demain. C'est vraiment d'aider toutes les victimes de toute agression. Il y a des pétitions, donc ça prend 2 secondes à chaque auditeur de la signer et ça peut vraiment faire évoluer la justice dans le sens des victimes et non pas vers le sens des bourreaux.
Collectif?
Alors, Collectif Femmes contre le viol, CFCV.
Collectif Femmes contre le viol. Écoutez, le message est passé. Pour tous les gens concernés, bien sûr.
Oui, vraiment, faites-le tous.
Ce que j'aimerais comprendre, Marie-Laure, c'est que puisque vous êtes suivie par un psy depuis tant d'années, qu'est-ce qui a changé en portant plainte dans votre esprit?
Tout. C'est-à-dire que la peur, la terreur, parce que moi, ça fait 35 ans que... ça fait 35 ans que je vis dans la terreur et l'angoisse. Que le soir, j'ai toujours peur que, j'avais toujours peur qu'il revienne. Donc, tous les soirs, il fallait que je ferme ma porte à clé, quoi. C'est un truc, c'est juste hallucinant. Et le fait, donc, que c'est plus moi qui porte cette terreur et cette angoisse, mais maintenant, c'est eux qui l'ont.
Oui.
Que je me suis réapproprié mon esprit, comment petit à petit à se réapproprier mon corps. Parce que pour moi, j'ai toujours eu deux entités, c'est-à-dire j'ai mon esprit et mon corps. Ça fait pas un.
Donc, oui, bien sûr. Vous êtes ce qu'on appelle en dissocié.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au moment où le premier choc est arrivé, vous vous êtes dissocié immédiatement, inconsciemment, bien sûr. C'est comme si comme vous n'avez pas pu fuir physiquement, vous avez fui mentalement.
Ouais, c'est.
Il n'y a pas le choix. Hein. C'est, malheureusement, ouais. quand on est coincé dans une situation de viol, d'agression, le physique est coincé. La seule issue qu'on a, c'est que le mental s'échappe.
Ouais, ben. Et moi, j'ai eu la chance dans ce parcours de vie, c'est d'être très bien accompagnée. Même si mes deux parents sont pas là, je sais que j'ai deux anges qui m'accompagnent depuis tout le temps.
Ils sont, voilà, ils sont pas là, mais ils sont pas loin.
Voilà, tout à fait. Mmh. Et le fait que je me suis réapproprié ma vie et que maintenant, c'est rigolo, parce que ma fille Lisa me disait « Maman, c'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent. » Et moi, c'est comme si c'est exactement ça. J'ai cette, là, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai porté plainte quelques jours après, j'ai eu envie de faire un puzzle, alors que je ne suis pas du tout puzzle. Et il y a mon beau-frère qui m'a offert un puzzle et j'ai eu envie de le faire.
Parce que c'est vraiment symboliquement, vous êtes en train de rassembler les morceaux, en fait.
Ouais, c'est vraiment cette image-là.
C'est pas les planètes qui s'alignent, c'est vous qui êtes en train de vous réaligner.
Ouais, c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout un puzzle, toute une personnalité qui est cassée en 100 000 morceaux. Et petit à petit, voilà, les morceaux se remettent pour faire qui je suis, quoi, Marie-Laure, quoi.
J'ai aussi entendu parler tout à l'heure de toile. Est-ce que vous peignez ?
Oui.
Et j'ai remarqué que très souvent, les femmes qui ont été victimes d'une agression développent un talent dans un art particulier, que ce soit le chant, l'écriture, la peinture, le dessin, comme si c'était aussi un exutoire.
Ah ben complètement. Et j'ai peint de l'âge où j'ai été violée jusqu'à, je pense, la fin où j'ai arrêté d'être violée.
Ouais. Et vous avez peint jusqu'à exposer, donc ça a bien marché.
Alors, j'ai pas exposé beaucoup. Pour l'instant, j'ai jamais vendu une toile, donc, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important.
C'est pas l'objectif, oui, j'ai bien compris.
Non, c'est pas que ça, parce que bien sûr, si je vendais des toiles, ça me permettrait d'acheter du matériel, etc. Mais bon, je fais de la récup, donc c'est pas un souci pour moi, au final.
On parlait d'exutoire, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans votre façon de peindre, par exemple?
Alors, justement, ce que. Comme j'ai peint de 14 à 17 ans, et après, donc, j'ai intégré les Beaux-Arts. Est-ce que j'ai le droit de dire la ville?
Oui, la ville, d'accord.
C'est à Lormian. Et c'était une des trois seules écoles en France où on pouvait rentrer sans avoir le bac, ce qui était mon cas. Donc, ça a été une sacrée belle opportunité. Hein. Et du coup, j'ai encore zappé ce que vous m'avez dit. Ça, c'est ma grande spécialité.
De l'exutoire et l'évolution de vos peintures au fil de votre évolution à vous, en fait.
Ah oui, et voilà. Et du coup, le fait de rentrer aux Beaux-Arts, j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses. J'ai rencontré des profs passionnants et passionnés. Hein. Mais par contre, ça m'a coupé toute l'envie de peindre. Il n'y a que depuis le mois de mars là, que je recommence à refaire mon petit atelier, à commencer à recréer.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce double dépôt de plainte aujourd'hui?
Alors, pour moi, je vais vous dire, l'important, ça a été ces deux lettres symboliques que j'ai écrites au mon palais de justice. Et je suis libérée. Moi, je suis sauvée maintenant. Je suis sauvée. Voilà. J'ai fait le plus. Je m'en suis sortie. Donc pour moi, voilà, c'est bon. Ce que je souhaite après, ce que je souhaiterais, c'est que excusez-moi, je suis encore partie. Il va falloir que vous me redites.
Oui, alors du coup, vous me faites partir avec vous. Oui, je vous demandais ce que vous attendiez. C'est ce qu'on appelle le flow d'une conversation. Je vous demandais ce que vous attendiez concrètement et vous me disiez que l'essentiel, c'était ces deux lettres et que vous vous êtes sauvés.
Voilà. Mais, et que la justice.
Mais trois petits points, on en était là. Voilà.
Voilà. Mais qu'il n'y ait plus de délai de prescription.
Ah, ça, c'est votre combat. Et je pense que vous n'allez pas être la seule. Hein.
Ah, je peux vous dire que nous, les victimes, maintenant, ça y est, on est tout en train de se réveiller dans le monde. Et les autres, les bourreaux de l'autre côté, maintenant, c'est eux qu'on la trouille. Mais voilà. Et délai de prescription, et aussi un truc auquel j'étais confrontée, et c'était vraiment très, très difficile, c'est qu'il y ait un numéro de téléphone dédié pour les victimes, mais que ça soit du 24 heures sur 24. Parce que nous, les victimes, on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire une crise d'angoisse, quand est-ce qu'on va avoir besoin de soutien et quand est-ce qu'on va avoir besoin d'être écouté. Mmh. Et ce qui s'est passé un soir, il y a ça 15 jours, j'ai vraiment eu une grosse crise d'angoisse et de terreur. Et donc, j'ai appelé mon avocate, je ne dis pas le nom, et c'était un vendredi, il était vers 20h, donc elle m'a répondu, mais du coup, elle m'a fait comprendre que c'était pour elle, elle basculait dans le monde privé, donc ce que j'ai complètement entendu.
Mais elle est avocate, pas psy, quoi.
Voilà, tout à fait. Et du coup, après, j'ai appelé donc deux brigadiers, voilà, au commissariat, donc le commissariat, ben, lui aussi, il avait fini leur journée, Et né en premier, ce que j'ai oublié de dire, mais c'est pas grave, c'est que j'ai au palais de justice, j'ai rencontré Maître Bip, qui m'a aidé à faire mon courrier et qui est de la région du présumé violeur. Et du coup, ça y est, j'ai encore perdu le fil de les. Parce que c'est ça, des fois, après, je pars trop loin, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Là, je vous avoue, je vous ai un peu perdu aussi, là, parce que vous êtes partie.
Ouais, j'étais trop...
Il y a deux combats que vous meniez. Vous meniez le combat pour que le délai de prescription n'existe plus, parce que c'est effectivement, c'est assez...
Voilà, et du coup, voilà. Et donc, lui, cet avocat, m'a pris le temps de m'écouter, de m'accorder du temps. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y a un numéro, donc, en France... où les victimes, toutes victimes, puissent appeler 24 heures sur 24. Parce que c'est très violent
quand l'angoisse monte. Quoi, ouais.
Et là, et puis qu'on a vraiment besoin d'elle, et qu'au final, vous voyez, vous avez le droit d'être en souffrance de 9 heures du matin jusqu'à peu près 17 heures.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas de sens. D'autant que les crises d'angoisse arrivent rarement aux heures de bureau. Hein.
Ben voilà, c'est l'autre difficulté à laquelle je pense que les victimes on est confondues. Donc ça sera vraiment quelque chose à créer. Donc si les pouvoirs politiques nous entendent et ont envie de faire quelque chose.
Il y a quelque chose aussi qui me traverse l'esprit. Vous avez parlé tout à l'heure de lettres que vous avez faites pour le tribunal, c'est ça?
Oui, tout à fait. Mais pour le procureur.
Pour le procureur. Est-ce que vous savez aussi à quel point les actes symboliques sont importants quand on a été agressé?
Oui.
Et comme vous pourriez peut-être aussi écrire à chacun de ces violeurs, quitte à brûler la lettre ou à la jeter dans une rivière, mais autoriser la petite fille que vous étiez à dire les choses avec ses mots à elle, et à les mettre par écrit, et ensuite à faire ce qui vous inspire le plus, soit vous enterrez ça, soit vous le brûlez, soit vous le jetez dans une rivière, mais que ça sorte, c'est important aussi. L'importance des actes, des gestes et des actes symboliques dans ces cas-là. Ça vous parle, ça?
Oui.
Si vous arrivez à le faire, je pense que c'est quelque chose qui pourra vous aider.
Mais c'est dur pour une petite fille.
Oui, mais c'est libérateur. Parce que je crois que la petite fille à l'intérieur, elle a encore besoin d'aide. Allez la prendre par la main, cette petite fille-là. Et dites-lui qu'elle a été aussi forte, plus forte que tout ce qu'elle a surmonté, qu'elle a eu les épaules plus larges que tout ce qu'elle a porté, et que c'est une chouette petite fille. Et que c'est aussi grâce à tous ces combats-là que vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui.
Moi, j'ai eu cette chance-là de m'en sortir, mais je pense à toutes celles qui sont tirés une balle dans la tête ou qui se droguent ou qui sont tombés dans l'alcool parce qu'elles n'ont pas...
Elles n'ont pas eu cette force-là. Mais c'est pour ça, Marie-Laure, que votre témoignage est extrêmement important et je vous en remercie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on termine en redonnant encore le nom de l'association.
D'accord.
Alors, redites-moi.
Ouais. Collectif Femmes contre le viol.
Collectif Femmes contre le viol. Donc, à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin, notez bien ça. Collectif Femmes contre le viol. Merci Marie-Laure d'être venue témoigner, d'avoir parlé de tout ça.
Moi, depuis toute petite, je sais que j'ai une mission à accomplir. Je sais maintenant, vous savez tous maintenant, voilà, cette mission qu'on a tous à accomplir. Et c'est un devoir pour moi. C'est un devoir de transmettre tout ça pour permettre à, voilà, des prescriptions ou pas, mais voilà, de se libérer.
D'accord.
De...
J'espère que votre participation ce soir aura permis de mettre un petit caillou en plus sur ce chemin-là.
J'espère aussi. Mais oui, je crois que le petit caillou est posé.
Je vous embrasse très très fort, Marie-Laure.
Moi aussi.
Merci,
moi aussi,
merci de votre courage, je vous embrasse fort.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et notre émission se termine en douceur. Un grand merci à Marie-Laure, à Caroline, à Françoise d'être venues en toute sincérité nous ouvrir leur cœur et nous parler de leur vie. Pardon à tous ceux qui étaient en attente et que je prendrai avec grand plaisir demain soir. Merci à vous tous qui avez participé par SMS. Je vous laisse, avant de vous retrouver demain soir à partir de 23h, je vous laisse avec cette citation. J'ai appris depuis longtemps que pour soigner mes blessures, je devais avoir le courage de les regarder en face. Passez une bonne nuit sur Europe 1. Dans un instant, vous serez en compagnie de Fabrice Dalméda avec Au cœur de l'histoire. À demain. Vous écoutez Europe 1. Il est 1h du matin.